Votre coach chez vous, une chronique proposée par Christine Huchette.
Christine Huchette, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Très heureux de vous retrouver pour cette chronique où nous allons commencer une série autour de la notion d'engagement. Et pour nous en parler, vous avez commencé à nous remettre dans le contexte. Vous aimez bien faire cela, vous aimez bien faire une analyse en quelque sorte de la société pour nous aider à comprendre d'où nous venons et vers quoi nous allons, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Effectivement, je pense que c'est très important pour comprendre un certain nombre de notions, de comprendre l'évolution de cette notion aussi. Donc je voudrais vous parler de l'engagement, mais de l'engagement au XXIe siècle. Et pour ce faire, il y a effectivement des modifications dans la compréhension que l'on a de cet engagement. Et pour bien les comprendre, il me semble important de se rendre compte des différentes sociétés qu'on vient de traverser au cours du XXe siècle.
Vous aviez déjà eu l'occasion de nous parler de différents types de générations, des générations d'aujourd'hui, mais là, on ne va pas aborder les choses de cette manière-là. Par contre, vous relevez globalement trois types de mode de fonctionnement de société qui nous ramène à pas si loin que ça. Et je crois qu'on va commencer avec la société plutôt traditionnaliste, c'est ça ?
Oui, j'avais déjà évoqué les traditionalistes lors de ma chronique sur la génération Y. Et là, je voudrais juste rappeler que dans cette société traditionnaliste, en fait, comme son nom l'indique, ce qui était important, c'était de respecter la tradition. Et donc, on était dans un mode où on ne se posait pas énormément de questions. Et ce qui était le plus important, c'était de suivre la trace. Donc, par exemple, c'était une époque où on était pharmacien de père en fils, notaire de père en fils, en fait, ou plombier de père en fils, ou agriculteur de père en fils, sachant qu'à cette époque-là, il y avait à peu près 30 à 40% d'agriculteurs en France ou dans le monde entier, dans les pays en général. Pour votre information, aujourd'hui, ils sont 3%.
En France.
En France. Donc, on n'est plus du tout dans le même type de société. On était dans une société donc de campagne et de tradition. Il y avait des choses qui se faisaient et des choses qui ne se faisaient pas, mais on ne se posait pas trop la question de savoir à partir de quel moment on avait décidé qu'elles étaient possibles ou au contraire impossibles. Et donc, cette société était très très cadrée et bien sûr elle était aussi sous l'emprise, hein, comme je le disais dans d'autres chroniques, sous l'emprise de carcans qui étaient liés à des organisations, donc des organisations politiques ou des organisations liées à la religion. Donc beaucoup de choses se faisaient selon des principes dans notre pays, des principes catholiques, ou se faisaient selon des principes politiques. C'était l'époque où, par exemple, le Parti communiste avait énormément de pouvoir et d'influence.
Il y avait une certaine forme d'immuabilité à ce moment-là.
J'aime beaucoup ce terme d'immuabilité, c'est-à-dire les choses étaient lentes. Hein, dans la notion d'immuabilité, il y a aussi cette notion de lenteur et d'acceptation de ce qui nous arrive. On n'était pas du tout dans la réflexion personnelle. On ne cherchait pas à comprendre. On acceptait, on se résignait, on subissait.
Alors juste encore pour situer, vous voyez cette époque à peu près à quel moment ? C'était au siècle dernier, avant ?
Oui, la coupure se fait à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je dirais que c'est dans les années 1950, même un tout petit peu avant. Aussi un tout petit peu entre les deux guerres, mais bon, la Seconde Guerre ayant un petit peu stoppé le mouvement, ça se réveille à ce moment-là.
Donc c'est pas si loin que ça, en fait.
Non, pas du tout. Nos grands-parents sont issus directement de cette vision des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, quand vous parliez d'immuabilité, je pense que leurs parents, leurs grands-parents étaient déjà dans ce système-là. Donc il y avait une certaine compréhension entre générations. Et aujourd'hui, les évolutions technologiques, les évolutions techniques, les évolutions de pensée font que tout cela a beaucoup évolué. Et on a évolué après cette société traditionnaliste. Bien sûr, il y a toujours mai 68. Mai 68 a quand même été au départ initialisé par des étudiants qui voulaient retrouver leur liberté d'agir, de penser et de choisir. Et je pense que c'est un point de départ de cette envie ou de ce désir de choisir et de choisir sa propre vie.
On est passé ensuite à quel type de société par conséquent ?
Donc là, on était plutôt dans une société quand même assez, on parle de collectivité, on avait quand même des règles de société, on apprenait à faire société, donc même si tout cela ne nous était pas imposé, il y avait quand même toutes ces règles de citoyenneté, de vivre ensemble à l'extérieur de chez soi, donc de vivre ensemble en ville, de vivre ensemble en association, de vivre ensemble à l'école. Et ces notions ont petit à petit disparu. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine société individualiste. C'est-à-dire l'individu prime sur la collectivité.
En quelques générations, nous sommes passés d'un mode de fonctionnement complètement traditionnaliste où tout était bien cadré à un mode de fonctionnement où chacun vit finalement que pour lui-même.
Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, on est passé d'une société où les cadres étaient bien marqués, où les clôtures des prêts étaient bien symbolisées, à une société où il n'y a plus de barrières et il n'y a plus beaucoup de références. Et en fait, chacun doit maintenant construire ses propres références.
Est-ce que c'est quelque chose à quoi nous sommes obligés ou est-ce que c'est un désir, une volonté ?
Je ne sais pas exactement ce que vous entendez par obligé, mais au départ, on est sur l'envie, le désir de mener sa propre vie, et non plus qu'elle nous soit imposée par un diktat quelconque.
Donc, si je vous comprends bien, j'essaie de décrypter tout ce que vous dites. Mm-hmm. Auparavant, nous étions soumis justement à des ordres venus d'ailleurs, en quelque sorte. Vous parlez de diktat carrément. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'être libres, de diriger notre propre vie par nous-mêmes. Donc, on se concentre sur nous uniquement, pas tellement sur ce qui se passe autour.
En tout cas, l'élément important, c'est notre vie, c'est la manière dont on veut la mener. D'ailleurs, pour illustrer ce caractère individuel de notre société, vous avez deux exemples. Je prendrai le premier exemple qui revient très souvent, c'est bien sûr les nouvelles technologies, qui, de par leur fonction et de par leur attrait et de par leur facilité d'accès, nous rendent de moins en moins dépendants des autres. Aujourd'hui, avec par exemple les cours MOOC, eh bien, vous n'êtes même plus obligé de vous rendre à l'université pour étudier. Donc la notion de professeur, d'animateur disparaît petit à petit. Donc pour avoir des renseignements, toutes les professions, que ce soit les avocats, les notaires, les médecins, ont perdu énormément de notoriété par le fait que beaucoup d'informations existent sur Internet. Donc c'est comme si on pouvait se passer d'eux, comme si on pouvait se passer de leur expertise. En tout cas, c'est ce qu'on pense.
Le savoir n'est par conséquent pas détenu de la même manière qu'auparavant.
Exactement, et de ce fait, ça nous rend plus concentrés et plus tournés vers nous-mêmes. Le deuxième exemple que je peux vous donner, on est là dans l'entreprise. Je suis une ancienne directrice des ressources humaines, et aujourd'hui, quand j'enseigne, que ce soit à Sciences Po, à l'EDEC ou à l'Université de Savoie, j'enseigne les ressources humaines. Et il est clair qu'il y a une grande évolution aussi dans ce domaine-là. Dans l'entreprise auparavant, dans ces sociétés dites collectives, voire traditionnalistes, il y avait des chefs de personnel. Donc le personnel était une entité, c'est-à-dire qu'en fait, 200 salariés, c'était le personnel. Donc il n'y avait pas du tout de notion d'individu dans cette manière de gérer les ressources humaines. Aujourd'hui, on parle donc de directeur des ressources humaines et on parle de plan de carrière individualisé ou de plan de carrière individuel. Et l'idée est que chaque salarié puisse trouver sa propre évolution dans l'entreprise. Donc on n'est plus du tout dans un symbole où il y a un ensemble de personnes, mais on est plutôt dans une situation où chaque élément du groupe est considéré pour ce qu'il est, pour ce qu'il souhaite, pour ce qu'il peut faire.
Est-ce que ça signifie donc que chacun est véritablement considéré comme une personne, un individu, ou est-ce que à nouveau, de toute façon, on retombe dans le même travers, enfin j'aurais tendance à le penser, de l'exploitation des individus pour obtenir quelque chose, un produit, puisque au final, c'est ce qui domine le monde, non ?
Alors là, on est sur un autre sujet.
En
tout
cas,
oui, c'est plus philosophique. J'irai pas jusqu'à me poser cette question sur. En tout cas, la valeur travail, il faudra probablement effectivement la reconsidérer et la revaloriser. Mais ce qui est certain, c'est que les entreprises qui aujourd'hui ont du succès vis-à-vis des nouvelles générations, et ce qui est mis en place dans toutes les entreprises, c'est effectivement le côté individuel, le plan individuel de formation, le plan individuel de carrière, c'est-à-dire que on essaye de voir chaque individu dans sa propre originalité.
Dans sa propre entité.
Tout à fait.
Et dans ce qu'il est capable d'apporter.
Voilà. Donc on a perdu cette notion de collectif.
Donc de mise en commun ?
Non, je dirais pas jusqu'à dire de mise en commun, mais je voulais dire par là qu'on est un ensemble d'individus, mais on considère chaque individu, on ne considère pas l'ensemble.
Si je vous interpelle comme ça, c'est parce que ça m'interroge, tout ce que vous me dites là. J'ai l'impression qu'on vit toujours dans une société humaine, composée donc de femmes et d'hommes, qui interagissent, et que par conséquent, on ne peut pas considérer que chacun est dans son petit coin et se suffit à lui-même.
Oui, mais c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Je ne voulais pas aller jusqu'au point de dire que on serait chacun pour soi. Ce que je voulais dire, si je reprends l'exemple de la famille, je pense que auparavant, peut-être qu'on parlait de la famille ou des enfants en général. Aujourd'hui, les parents essaient de procurer à leurs enfants des choses peut-être plus variées selon les appétits et les appétences des uns et des autres. Avant, peut-être que les filles faisaient de la musique et les garçons faisaient du sport. Aujourd'hui, chaque enfant peut peut-être faire une activité qui l'intéresse. C'est plus dans cette idée de ne pas être considéré comme tout le monde, mais plutôt de reconnaître l'individu qui est en nous.
Donc c'est plus de l'individuation, si je puis me permettre, que de l'individualisme.
Oui, on peut dire ça.
Et par rapport à l'engagement, alors on va en parler évidemment dans les chroniques qui vont venir, mais mettez-nous un peu l'eau à la bouche, qu'est-ce que ça implique ?
Alors, l'engagement ne peut exister que si on se sent libre, et si on se sent libre de choisir la raison pour laquelle on va s'engager. Donc en fait, le fait que cette société ait évolué et qu'elle ait évolué vers plus de liberté et vers plus de liberté de penser, liberté d'expression, liberté de se respecter, de se sentir vivre à l'intérieur d'une communauté, va probablement influencer nos manières de nous engager et va influencer l'engagement général.
Donc à vous entendre, j'ai le sentiment qu'on est invité à aller vers plus de liberté.
Oui, alors que peut-être l'engagement ne fait pas toujours penser à cette référence-là, hein, puisqu'on parle par exemple de s'engager dans l'armée, et on n'a pas la connotation, n'est pas liée à la liberté dans l'armée. Hein, donc, mais par contre, l'engagement, le fait de décider, est lié à la liberté.
Eh bien Christine Huchette, je vous propose de parler justement de cette dimension d'engagement et de liberté dans notre prochaine émission. Merci beaucoup déjà d'avoir planter un peu le décor dans celle-ci. À très bientôt.
Merci Fabrice, à bientôt.
C'était Votre coach chez vous, une chronique proposée par Christine Huchette.